Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Ensemble, Christophe Jubien pour vous accueillir. Et comme à chaque fois, il y aura plusieurs sujets au cours de cette émission. Nous allons balayer l'actualité du monde associatif chartrain. Et pour commencer, je reçois Morgane Legrand qui est chargée de com, on va dire, de la délégation départementale de l'APF, l'Association des paralysés de France, qui organise sa 4e édition de l'opération En dit donc, c'est jusqu'au 1er décembre. On va évidemment parler de cette opération, vous donner toutes les infos pratiques pour que vous puissiez participer. Et puis, en premier lieu, on va parler de l'association, l'APF, Association donc des paralysés de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? À quoi ça sert? Et comment vous êtes entré, tiens, d'ailleurs, vous?
Alors, juste moi, pour ce qui est de mon entrée, je suis arrivée en tant que stagiaire, en fait, communication. Et voilà, il y a eu tout un parcours, ça m'a tellement plu que j'ai pas forcément voulu en repartir. Et donc, d'où le bénévolat pour ma part. Voilà.
Voilà. Et vous siégez également au conseil d'administration, hein?
Oui, également donc au conseil où il y a 9 élus au conseil APF de département pour représenter en fait tous les adhérents et puis répondre à leurs attentes.
Oui. Alors, en quoi consiste en fait l'action des APF?
Alors, l'APF donc a pour mission, donc l'APF en général a pour mission donc de défendre les droits des personnes en situation de handicap moteur, mais aussi de leurs familles, et de lutter donc contre l'isolement ainsi que contre les discriminations. Donc voilà vraiment les objectifs de l'APF. Concrètement, comment est-ce que ça peut se traduire? Alors ça se traduit par justement l'accompagnement dans l'acquisition de certains droits, dans la revendication, c'est-à-dire on aide à composer des dossiers pour bénéficier de certaines aides, certains aménagements. Ça peut être rompre l'isolement par des sorties et des ateliers, ce que nous proposons régulièrement. Ça peut justement être, encore une fois, la revendication à l'occasion de manifestations, par exemple. Enfin voilà, ça peut être tout ce genre de choses, ainsi que donc des actions de collecte, en fait, de fonds qui peuvent se faire de différentes façons.
Ouais, alors l'APF est très active en Eure-et-Loir parce qu'elle gère aussi un foyer à Mavilliers, hein, le foyer Bourgarel.
Tout à fait, justement, oui, parce qu'en fait, l'APF, c'est la vie associative, certes, mais pas seulement. Il y a effectivement le foyer Bourgarel, où il y a plusieurs résidents. Il y a aussi un foyer APF qui est sur Vernouillet, donc pour les personnes en situation de polyhandicap, et également des services, donc pour adultes et pour enfants.
Alors, au sens noble du terme, évidemment, l'APF tente de faire du lobbying parce qu'on a beaucoup à faire, on le dit, on le redit chaque année. Il y a encore beaucoup à faire en France pour être à la hauteur des enjeux, hein.
Oui, tout à fait, mais notamment alors, sur l'accessibilité, par exemple, c'est toujours d'actualité, mais pas seulement sur, bien sûr, avec la rentrée, parce qu'on est en septembre, c'est le moment d'en parler, sur tout ce qui est l'accompagnement, justement, des enfants en situation de handicap avec les auxiliaires de vie scolaire, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, à porter, et d'où l'intérêt de siéger aussi dans les commissions, donc, voilà, en ayant des représentants.
Ouais. Au niveau urbanistique, là on est à Chartres par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites au cours de ces dernières années?
Alors oui, il y a des choses qui sont faites. Alors après, c'est vrai, il faut s'en rendre compte, mais les démarches sont là, notamment effectivement pour tous les établissements recevant du public. Il y a bien eu des dossiers donc de montée pour l'accessibilité. Il y a eu plusieurs choses, d'ailleurs on le voit de plus en plus dans les commerces, peut-être que les gens qui se baladent à Chartres le voient. Il y a des rampes de plus en plus installés ou qui se déplient d'ailleurs devant les magasins. Donc ça, par exemple, ça peut sembler sur le coup anodin, mais voilà, c'est ce qui permet de pouvoir se déplacer, de rentrer dans les boutiques comme tout à chacun. Donc c'est fait. Après, il reste à faire, notamment sur les pavés. Je sais que ça gêne beaucoup de monde et que beaucoup de personnes se reconnaîtront. Ça reste à faire, mais honnêtement, le dialogue est quand même enclenché. Il y a de plus en plus d'articles, même dans la presse, où on peut voir des lieux qui deviennent accessibles.
Oui. Et puis là, vous faites des actions de communication. Je sais qu'il y a un ou deux ans, vous avez organisé une sorte de, on va dire, de marche, enfin, dans Chartres. Hein, comment ça s'était passé et quel était le but?
C'était la... Alors, je sais pas si on parle de la même, du coup.
Parce que je pense que oui, non?
Il y en a eu plusieurs, mais il y a eu celle, là, récemment, la marche des oubliés, du coup. La marche APF avec, en fait, des personnes en situation de handicap qui sont venues à vélo. De Nantes et qui ont porté les revendications en fait partout en France et voilà jusqu'à Chartres. Et comment ça s'est passé? L'idée c'était de rallier des lieux emblématiques Par exemple, la maison départementale de l'autonomie, voilà, ça c'était un lieu un petit peu symbolique pour le coup. Donc l'idée c'était vraiment de rallier ce type de lieu et d'aller porter des revendications citoyennes, alors sur le handicap, mais enfin, pas que sur le handicap moteur justement. Des revendications citoyennes au sens large, puisque beaucoup de personnes ont des choses à faire valoir en fait. Ouais.
Alors vous-même, Morgane, vous êtes non-voyante. Qu'est-ce qui est difficile dans une ville comme Chartres pour une non-voyante, ou quelles améliorations pourraient être apportées au niveau de l'urbanisme et, ou autre d'ailleurs?
Tout à fait. Alors moi, je suis malvoyante.
Malvoyante, pardon.
Non, mais vous avez raison, si j'ai un problème de vue, effectivement. Alors ce qui pourrait être changé, on pense forcément au contraste. Ça, c'est un petit peu la première chose à faire, des choses contrastées sur les démarches pour pouvoir, par exemple, les repérer, les identifier, repérer forcément les entrées de magasins, donc avec, pareil, une entrée contrastée, une bande noire autour des portes, ce genre de choses. Après, il existe donc ce qu'on appelle des bandes de guidage. On en trouve parfois dans les gares. Ça peut être utile dans certains lieux assez grands, en fait, dans certains grands lieux, effectivement, pour pouvoir se déplacer grâce à la canne, en fait, on les suit. Pareil, ce qu'on appelle les bornes podotactiles avant les passages piétons, ça, il en faut partout. C'est très important pour qu'on puisse se déplacer de façon sécurisée. Et le vocal, ce qui manque souvent, c'est le vocal dans beaucoup de villes. Alors je sais que ça bouge, même à Chartres, mais ça, il faudrait vraiment songer à équiper tous les lieux un petit peu emblématiques, voilà,
avec des bornes, c'est ça, des bornes.
Ben, il existe plusieurs choses. Alors la bande de guidage, ça c'est au sol, et par exemple, ça ressemble un petit peu à des bornes, et en fait, qui parlent pour permettre aux personnes de s'orienter. Et ça, dans toutes les grandes structures, c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qui manque.
On espère qu'on nous entend ici, aujourd'hui, sur Radio Grand Ciel. Morgane, on va parler de cette opération Andy. Donc, il s'agit de la 4e édition. Elle se déroule depuis le 1er septembre jusqu'au 1er décembre. C'est un grand jeu national solidaire. En quoi consiste-t-il ?
Ce jeu solidaire, il fonctionne de façon très simple, à savoir avec des tickets dons, un ticket don étant à 2 euros. Et en quoi ça consiste plus concrètement? Ben, ça consiste en fait à financer donc des projets locaux derrière, mais de façon ludique, puisque ça reste effectivement un jeu, donc avec des cadeaux à gagner, de très beaux cadeaux. Donc tout le monde peut participer et puis surtout se joindre à des actions dans plusieurs villes en fait du département. Voilà l'idée, mais pour nous soutenir.
Ouais. Alors on peut se les procurer où, ces tickets dons?
Le plus simple, c'est de nous les demander éventuellement en délégation, puisqu'ils sont disponibles à la demande, donc à la délégation APF de Chartres. Mais pas seulement, vous pouvez aussi jouer de chez vous, en fait, puisqu'il y a un partenariat avec Price Minister. Donc en allant sur Price Minister, le site internet, vous pouvez jouer à Andidon, et quand vous rentrerez votre code postal, en fait, eh bien, les bénéfices donc collectés seront reversés au niveau local en fonction de votre code postal.
Oui. Alors, ce jeu permet de contribuer donc au financement d'actions menées par les délégations. Est-ce qu'il y a des actions dont vous pourriez nous parler qui sont en cours ou en projet ?
Oui, alors des projets, pour commencer, parce qu'on en a toujours, effectivement, et Andidon peut servir à cela. Donc à savoir, par exemple, alors il y a des sorties en elles-mêmes, notamment on attend une sortie à la mer pour nos adhérents. Donc ça peut financer voilà ce genre de choses, vraiment un voyage. Ça peut financer d'autres choses comme un projet de jardin suspendu, comme l'entretien des fauteuils aussi, vraiment des ateliers pour gérer les fauteuils roulants, ou voilà d'autres projets de ce type, ou l'acquisition par exemple d'un véhicule adapté, puisque ça peut se chiffrer assez cher.
Oui, c'est ça, hein. Les équipements sont très chers, il faut quand même le redire à nos auditeurs. Les équipements sont très chers, les fauteuils, etc. sont chers.
Oui, 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 tout à fait. D'où l'importance de communiquer régulièrement et de faire connaître au grand public et de communiquer sur nos besoins.
Ouais. Il y a des aides pour des gens qui n'auraient pas trop de moyens et qui ont besoin d'avoir un bel équipement.
Oui, oui. Alors pour toute personne donc en situation de handicap qui aurait un besoin et qui aurait des difficultés à financer ce qu'on appelle donc une aide technique, le plus simple, c'est de se tourner vers la maison départementale de l'autonomie, puisqu'il existe là des aides justement de financement, donc, et puis avec des professionnels qui peuvent aider à monter les dossiers, sachant que l'APF peut aussi aider là-dessus, sur la composition de dossiers.
Oui. Morgane, merci beaucoup. On va redonner peut-être le numéro de téléphone de la délégation départementale de l'APF de l'Eure-et-Loire. C'est 02 37 28 61 43. Puis un mail dd.28@apf.asso.fr. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles?
Oui, on a toujours besoin de bénévoles, toujours, puisque ça se base sur les bonnes volontés, en fait, le secteur associatif. Donc oui, bien sûr, si vous voulez devenir bénévole, sachez qu'il y a vraiment... il y en a pour tous les goûts, en fait. On recherche tous les profils, mais en ce moment, notamment sur Andidon. Venez nous aider à tenir des stands, venez nous aider pour la logistique et pour parler de cette formidable opération, puisqu'on a besoin d'être beaucoup sur le terrain.
Ouais, vous serez en ville dans les semaines à venir?
Oui,
jusqu'au mois de décembre.
Oui, tout à fait. Et puis notamment pendant novembre, pendant la semaine en fait de l'emploi des personnes en situation de handicap. On sera très présent sur le département, c'est du 13 au 19 novembre.
Et on en reparlera évidemment sur nos ondes. Merci beaucoup Morgane.
Merci à vous.
Connu le morceau de U2, Desire. Nous allons changer tout à fait de sujet. Vous le savez, nous bénéficions à Chartres d'un service municipal d'archéologie tout à fait exceptionnel et c'est bel et bien mérité car la ville regorge de trésors enfouis sous nos pieds. Dernièrement, dans le chantier de fouilles de l'église Saint-Martin-au-Val à Saint-Brice, Saint-Martin-au-Val, la plus vieille église de Chartres, des sarcophages ont été exhumés datant de l'époque mérovingienne et il y a une semaine, nous avons été conviés, comme toute la presse locale, à l'ouverture du dernier sarcophage en date. À cette occasion, nous avons interviewé Bruno Bazin, qui est le responsable des fouilles à Saint-Martin-au-Val.
À mes côtés, Bruno Bazin, qui a mené à bien cette opération délicate au possible, puisque ce sarcophage, pour en soulever le couvercle, il a fallu pratiquement une demi-heure. C'est extrêmement friable. Racontez-nous cette aventure.
Oui, c'est très très friable. Alors, il y a les fissures qui sont provoquées par le temps, en fait, et puis par les sédiments qui étaient posés dessus. Et ce qui est très très compliqué, c'est qu'on ne voit pas toutes les fissures sur le calcaire. C'est un calcaire tendre de la région parisienne qui recouvre... En fait, c'est de la récupération de blocs du grand sanctuaire qu'ils ont retaillé pour faire les sarcophages et inhumer les corps.
C'est un calcaire... Absolument, du grand sanctuaire gallo-romain, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et le grand sanctuaire qui se trouve juste à côté, en fait, ils s'en servent... Bon, c'est une carrière et ils se servent des blocs, ils les évident et ils font des cuves pour les sarcophages. Pas tous, hein. Il y en a d'autres qui sont vraiment importés de Bourgogne, de la région de Tours, etc. Celui-ci, c'est une récupération et donc, du coup, il est très friable. Donc, fissure qui se voit, c'est facile, mais fissure qui se voit pas. Et là, la difficulté, c'est surtout qu'il faut pas faire tomber deux morceaux de couvercle dans le sarcophage, puisque le corps est tel qu'il était à l'époque. Et si on veut en tirer le maximum d'informations sur les modes d'inhumation, sur l'aspect social, etc., du corps, voilà, il ne faut pas bouleverser du tout la sépulture.
D'autant que le squelette lui-même est très friable apparemment.
Oui, très friable, on le voit bien. Il part en morceaux en fait. Et ça, c'est dû aussi à un élément qui se dépose dessus, qu'on appelle de la brouchite en fait, qui vient dans des espaces très hermétiques, très clos, et par l'humidité. Et du coup, ça rend friable en fait tous les ossements. Ça fait, ça cristallise dessus. Hein. Ça fait comme de l'hiver, la neige qui cristallise sur les arbres. C'est exactement le même principe. Et du coup, ça rend friable les ossements. Donc le prélèvement va être très compliqué du corps aussi.
Et la datation également?
La datation va être compliquée parce que pour dater au carbone 14, il faut qu'il y ait encore du collagène dans les os. Et en général, attaqué par la brouchite, c'est vrai qu'on a moins de collagène. Mais il y a quelques os qui apparaissent quand même qui sont plutôt bien conservés, sur lesquels on pourra avoir des éléments, je pense.
On peut dater alors donc tous ces sarcophages, c'est de quelle époque, quels étaient les hommes qui les ont fabriqués?
Alors on est à l'époque mérovingienne, les mérovingiens c'est du 5e, fin 5e jusqu'au 8e, et là on a des sarcophages qui sont d'ordre général entre le milieu du 6e et le milieu du 7e après Jésus-Christ, et puis un qui avait été découvert au 19e siècle et plus précoce, daté du fin 5e, début 6e.
Alors ce qui est extraordinaire et désolant à la fois, c'est de constater à quel point on a toujours finalement pillé les sarcophages, vous l'avez dit tout à l'heure, et ce que vous appelez des fosses de pillage, et ce depuis même l'époque mérovingienne.
Oui, on a la preuve par ce qu'on appelle nous la fouille stratigraphique, c'est la fouille des couches les unes après les autres, qui va permettre de remonter l'histoire en fait de l'église et puis des inhumations. Et là dernièrement, on a fouillé donc la semaine dernière une sépulture qui a été pillée. Enfin, ouverte, on va dire, parce que le pillage, c'est un terme particulier, ouverte dès l'époque mérovingienne. C'est-à-dire qu'on a bien vu que on avait sa fosse d'ouverture, le couvercle avait disparu, c'était rempli de terre, donc là c'est déjà un signe que le sarcophage a été ouvert, et en plus le corps ne présentait plus d'objets, ce qui est plutôt rare puisque les différentes inhumations qui étaient encore particulièrement bien conservées ont montré qu'on a affaire ici à des personnages de catégorie sociale relativement élevée. Donc c'est rare de pas trouver d'objets, c'est la première fois qu'on n'avait pas d'objets dans une sépulture, même celles qui ont été pillées, on a toujours retrouvé un ou deux objets associés. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il est pillé à l'époque mérovingienne par les couches archéologiques, mais aussi par la forme du corps, puisqu'il n'avait aucun élément bouleversé, ce qui veut dire que les objets ont été récupérés alors que le corps n'était pas encore décomposé. Donc dès l'époque de son inhumation, donc on doit être au 6e, 7e.
Le fait d'avoir été enterré sous une église, c'est la marque de quoi finalement ?
Ah, c'est la marque d'un prestige aussi, hein, de se faire inhumer à l'intérieur même d'un édifice religieux, bien sûr, ça montre l'importance à la fois des personnages, et puis ça permet d'être au plus près de Dieu, au plus près des saints aussi, puisque parfois on trouve en fait des inhumations qui viennent s'agglutiner autour de personnages importants, notamment des saints. Donc là, on a une inhumation qui est faite pour être au plus près de Dieu en fait.
Le fait d'avoir construit finalement cette église près d'un sanctuaire gallo-romain, c'est à dire une constante presque, non, de construire un édifice chrétien sur les restes d'un temple païen ?
Alors, c'est la vision qu'on a depuis pas mal d'années, mais dernièrement, il y a eu des études qui ont été faites assez poussées, qui montrent que c'est pas systématique. En fait, c'est souvent les écrits de Saint-Martin de Tours qui parlent qu'au quatrième, les temples sont détruits, brûlés, incendiés, et qu'à la place, on va y construire par-dessus une église pour enlever tout ce polythéisme qui existait. C'est pas tout à fait le cas. On a des exemples de temples romains qui sont séparés en deux, ou pas du tout, dans lesquels on a encore des cultes païens, comme on dit, c'est-à-dire des cultes gallo-romains, et à côté, des cultes déjà chrétiens.
Ils voisinaient, les deux voisinaient.
Ouais, c'est tout à fait intéressant, ça. Oui, ça existe, et ça change beaucoup la vision qu'on pouvait en avoir. Alors là, c'est vrai que c'est particulier, parce que l'église est installée devant le temple. Donc on avait un grand édifice religieux à l'époque gallo-romaine, plus de 6 hectares. Elle est installée dans la cour et devant le temple qui était encore visible, parce qu'on sait que même jusqu'au 16e, il y avait des ruines du grand sanctuaire qui étaient visibles, parce qu'il y a des blocs récupérés. Donc on peut effectivement se demander si c'est pas une volonté de vouloir inscrire du coup cet espace culturel de grande importance à l'époque romaine dans le nouveau mode de pensée religieux et d'installer du coup l'église en façade du grand temple.
C'est un chantier intéressant là ici pour vous?
Oui, parce que d'abord on est en fouille programmée, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire de la recherche, il n'y a pas de construction qui vont avoir lieu, à la fois sur le grand sanctuaire et dans l'église, ce qui fait qu'on peut prendre le temps de bien comprendre la stratigraphie, de bien étudier les objets, de bien étudier les corps, donc d'avoir des informations beaucoup plus importantes que lorsqu'on fait une fouille préventive où là on est pressé par les aménagements futurs. Donc là on est vraiment dans ce qu'on appelle de la recherche fondamentale et au-delà de ça, c'est intéressant, vous voyez bien, par la qualité des vestiges conservés. C'est intéressant pour l'époque antique parce qu'on a un édifice très rare, de grande ampleur, il en existe peu dans le monde romain. Et c'est intéressant pour la période mérovingienne parce qu'on connaît très peu de choses de la ville à l'époque mérovingienne. Donc on fouille un édifice religieux d'importance. On sait que un des premiers évêques, Saint-Lubin, est inhumé à l'intérieur de Saint-Martin-au-Val au 6e siècle. Donc là, on aurait probablement l'édifice qui fonctionnait au moment de l'inhumation de Saint-Lubin. Donc on sait que Saint-Martin est très importante. Donc ça va porter effectivement pour l'histoire et la connaissance de la ville de Chartres des informations relativement intéressantes.
Je crois que là, il y a du mobilier exposé. Est-ce que le public pourra voir à un moment ou à un autre ce que vous avez trouvé?
Oui, alors il y a un colloque qui va être organisé en 2020, un colloque international donc, qui est organisé par l'Association française d'archéologie mérovingienne. Donc le maire a répondu positivement à l'accueil de ce colloque. Donc en 2020, il y aura des conférences qui vont être réalisées sur les découvertes, pas que celles-ci, hein, les découvertes qui ont pu faites sur Chartres, sur le département et sur toute la région d'ailleurs, puisque il y a des partenariats qui sont faits. Il y aura une exposition dans laquelle figurera en fait les différents objets de Saint-Martin et d'autres qui ont été découverts dans les années 70, 80, 90 qui seront exposés à cette occasion. Mais il faut bien sûr prendre le temps déjà de restaurer les objets, de les consolider pour qu'ils soient exposés et de les faire parler, de les étudier.
Merci beaucoup. Merci.
La DOC 28, l'association départementale pour le dépistage des cancers, lance sa campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et bénéficie pour ce faire du soutien du conseil départemental d'Eure-et-Loire. Ce dépistage s'adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans. Tous les deux ans, les personnes concernées reçoivent une invitation envoyée par la structure de gestion du département, la DOC 28, les invitant à effectuer une mammographie. Le modus operandi nous est dévoilé par Isabelle Alloé de la DOC 28.
Alors, la femme reçoit une invitation dans la boîte aux lettres et sur cette invitation se trouve la liste des radiologues du département, mais il est évident qu'une femme peut aller dans le cabinet de son choix ou qu'il se trouve en France. Il suffit pour cela de nous appeler, on communiquera le numéro de téléphone des autres cabinets de la France. Une fois le numéro de téléphone en main, elles appellent leur radiologue et elles prennent un rendez-vous. Elles iront une fois le rendez-vous pris chez ce radiologue avec leurs anciens clichés, notre invitation et leur carte vitale. Donc quand elles arrivent chez le radiologue, elles donnent tous ces documents à la secrétaire et ensuite on pratique les examens, c'est-à-dire qu'il y aura une mammographie qui sera réalisée, des clichés directement, qui seront faits par la manipulatrice, et un examen clinique. Donc un examen clinique, c'est un examen des seins réalisé par le radiologue lui-même. Une fois cet examen réalisé, les clichés ne sont pas immédiatement rendus à la dame. Le radiologue fait son premier diagnostic où il dit à la dame que tout va bien, et dans ce cas-là, les clichés viennent dans la structure de dépistage qui se trouve à Chartres pour être lus une deuxième fois par un autre radiologue. Si les clichés sont suspects dès la première lecture, le procédé n'est pas du tout le même, puisqu'ensuite la dame est prise en charge et il y aura des examens complémentaires, voire une microbiopsie, une macrobiopsie, une cytoponction. Mais tous les clichés qui sont dits négatifs vont arriver à la structure de dépistage, sont relus par un radiologue indépendant, et ce radiologue soit va confirmer le diagnostic du premier lecteur, soit va l'infirmer, et dans ce cas-là demandera également des examens complémentaires, et la dame sera prise aussi en charge.
Alors, il faut savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres le cancer. L'an dernier, vous avez dépisté en Eure-et-Loire 135 cancers. Du sein.
Oui. En Eure-et-Loire, pour l'année 2016, en première lecture, donc dès le premier passage de la dame chez son radiologue, nous avons détecté 135 cancers, alors qu'en deuxième lecture, nous en avons trouvé quand même 8. C'est-à-dire que les femmes qui se sont rendues chez le radiologue en première lecture ont été diagnostiquées normales, et les mammographies ont été ensuite envoyées à la Dogue 28, et 8 cancers ont été diagnostiqués à ce moment-là.
Alors, ce qui est important, c'est de savoir que le cancer du sein se soigne très bien à partir du moment où il est pris à temps. C'est un des avantages de la mammographie. Il y en a d'autres, mais c'en est un.
Alors, effectivement, il est reconnu que plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison sont importantes et plus le confort de vie est également important.
Quels sont les facteurs de risque ? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie à adopter ?
Alors, les facteurs de risque, on les répète régulièrement. Il est évident que la consommation d'alcool, de tabac, le manque d'activité physique et le surpoids font partie des facteurs de risque, comme peuvent l'être aussi pour certains critères d'hérédité. Mais nos modes de vie influent d'une certaine façon aussi sur le cancer du sein.
En France, 12 000 personnes par an décèdent suite à un cancer du sein. Pourtant, s'il est détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage organisé reste donc le réflexe indispensable à encourager et soutenir pour lutter contre ce fléau. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler l'ADOC 28 au 02 37 31 32 66. Voilà, fin de cette édition de l'émission Ensemble. On se retrouve dans 4 semaines pour une prochaine édition. Et puis d'ici là, bien, je vous retrouve tous les jours, tous les soirs, dans le bulletin d'info départemental de 18h15. Excellente fin de journée à toutes et à tous.
Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, mais pas dans une Rolls-Royce. un peu élimé aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.